Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, 30 minutes pour parler de cinéma et puis jouer aujourd'hui à un blind test avec la filmographie de Mike Lee. Alors pourquoi ce réalisateur?
Parce que son nouveau film sort donc, et il s'appelle donc Deux Sœurs. Et puis voilà, je vous parlerai aussi de Wet Monday, puis si on a le temps, je vous dirai un petit mot sur le dernier film d'Albert Serra, Tardes des Soledad.
Et puis toi, Sophia, un film français?
Oui, Je le jure, de Samuel Théis.
Et puis moi, je vous parlerai d'un film qui est sur la plateforme Netflix, Hollande. Alors pourquoi? Parce qu'il y a Nicole Kidman et Gaël Garcia Bernal dans ce film. Mais nous commençons avec Je le jure, film français. Après le merveilleux film de Clint Eastwood, on retourne encore du côté des jurés d'assises. C'est Cinérama qui débute.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
La cour, levez-vous s'il vous plaît.
Difficile de parler de Je le jure sans parler de ce qui l'entoure, puisqu'il est sorti dans un contexte particulier. À l'écran, un film de procès, tendu, dense, qui documente avec précision ce qu'il se passe dans une cour d'assises et dans la tête de celles et ceux qu'on appelle les jurés populaires. En dehors de l'écran, un dispositif inédit, mis en place par la productrice Caroline Bonmarchand après qu'un technicien ait porté plainte pour viol contre le réalisateur Samuel Théis en plein tournage à l'été 2023. Le cinéaste a donc été écarté du plateau, dirigé la réalisation de son troisième long métrage à distance, hein, sans contact avec les équipes, selon un protocole inspiré des recommandations du collectif 50-50. Et il n'a pas non plus participé à la tournée de promotion et de diffusion du film. Et en fait, cette mécanique, cette question de la légitimité, du jugement, de la responsabilité, irrigue le film autant que sa fabrication. Ce n'est pas seulement un film sur la justice, mais un film qui respire la justice à plusieurs niveaux. Et ce qui le rend si déroutant, c'est qu'il semble être traversé par sa propre mise en procès. Je le jure est une réalisation coupée en deux, un film de tribunal d'un côté, un récit d'apprentissage de l'autre, mais dont la fracture fait aussi partie du projet.
Juré numéro 4, Maison Anthony.
Accusé.
Juré numéro 22, Nucci Fabio.
Qu'est-ce que j'ai fait?
T'as rien fait. Tu vas juste pour juger quelqu'un.
T'as qu'à leur dire que je l'ai pas lu cette lettre.
T'as pas le choix, c'est une obligation.
Juré numéro 14, Schumann Julia. Veuillez décliner vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession, s'il vous plaît.
J'espère juste que c'est pas un pote à moi.
Des florentiers, on a eu des bons ici, hein. Moi, il s'appelait Francis. Ouais, le rôle, c'est un bon, lui.
Fabio, la quarantaine, hein, bosse dans une décharge. Il chasse en Moselle et vit une histoire d'amour presque clandestine avec Marie, une femme de 68 ans. Alors clandestine parce que la société tolère plus facilement les âgées avec des femmes plus jeunes que l'inverse. Fabio, lui, est un taiseux, hein, pas du genre à débattre ni à se mettre en avant, jusqu'au jour où il reçoit une convocation. Il est tiré au sort comme juré pour un procès d'assises. L'accusé, un jeune homme noir, jugé en appel pour avoir incendié un immeuble ayant causé un mort. Et dès le tirage au sort, le ton est donné. Le premier juré noir est immédiatement récusé par l'avocate générale. Bon, la défense et l'avocate générale peuvent le faire sans motif, mais là, le message est assez clair. Certaines voix n'ont pas leur place, même dans un dispositif censé représenter la société. Dans la salle d'audience, Fabio, le juré numéro 22, donc, écoute, observe, absorbe les débats entre les jurés, dont une médecin, Louise Bourgoin, et un professeur désabusé, Michel Escott, qui incarne deux visions opposées de la justice. L'une parle de soins, de réinsertion. L'autre ne croit plus qu'à la punition et à la répression. Et au fil des jours, quelque chose se fissure chez Fabio, son regard change, il commence à penser, à douter, à désirer aussi, dans une lente montée de sève qui le révèle à lui-même.
J'informe la cour que ce crime est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.
Prends con, Fabio, tu vas juger le diable.
Il y a eu 7 incendies volontaires en 5 ans. Est-ce que vous éprouvez de la culpabilité?
Là, on parle d'un malade.
Il faut arrêter de l'excuser comme ça.
En quoi, monsieur Fadil, cette peine est trop lourde?
Je suis dans des problèmes depuis la moitié de ma vie.
La prison, c'est pas humain.
Les deux rôles principaux, hein, Julien Ernwine et Marie Massala, sont des non-professionnels, hein, aux côtés de la juge qui est quand même Marina Foïs. Et ils sont découverts lors d'un casting sauvage. Et leurs accents, les visages, les rites qui sont représentés, hein, avec la chasse, les tablés, donnent presque envie de s'inviter au gueuleton d'après-battu. Parole de végétarienne. Hein. Mais là où le film ose vraiment, c'est dans sa manière de filmer les corps. Hein, celui de Marie, 68 ans, pleinement désirante et désirable. Une rareté dans un cinéma obsédé par la jeunesse. Ici, pas de honte de vieillir, pas de regard médicalisant, hein, comme dans Amour de Haneke, où la dégradation devenait un peu une indignité. Fabio, lui, est d'abord filmé comme un bloc, hein, un corps taiseux, déplacé dans ce tribunal aux mots trop grands pour lui. Et c'est tout l'enjeu. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour un homme comme lui de juger un autre? Et si ce juré numéro 22 évolue, c'est aussi par une forme de contamination poétique, hein, une scène d'hallucination après avoir consommé alcool et drogue, où le procès embrase son histoire d'amour dans un cauchemar de flammes. Le lit conjugal devient tribunal, le jugement s'applique autant à lui-même qu'à l'accusé. C'est là que le film bascule doucement vers son autre versant, celui d'un parcours d'émancipation, un récit d'apprentissage tardif, hein, d'un homme qu'on n'avait jamais regardé autrement que comme une force de travail, mais qui commence à s'interroger et à s'exprimer. Le film de procès et le récit intime ne fusionnent pas toujours à merveille, mais cette faille devient un espace de vérité.
Il est accusé d'être pyromane, pas terroriste.
Si vous vous en êtes sûr, très bien. Moi, j'ai le droit de me poser des questions.
Faut pas comprendre que les faits, faut comprendre les gens.
Alors raconte comment ça se passe.
Bah, c'est intéressant. Hein.
Ouais, tu sais déjà ce que tu vas voter.
Non.
C'était dur ce matin. Puis là, avec fantôme.
J'ai l'impression que je serai pas à la hauteur.
Mais tu ressens quoi, toi? Tu crois qu'il peut changer?
Vous, mesdames et messieurs les jurés, vous allez prononcer une peine de vie. À vous de décider laquelle.
Qu'est-ce que vous voulez? Réinsertion ou répression?
La vie d'un être humain, ça vaut combien pour vous?
Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de barème. Parce qu'on ne juge pas un crime, on juge un homme.
Impossible de ne pas penser à 12 Angry Men de Sidney Lumet, huis clos tendu autour d'un juré seul contre tous. Également à juré numéro 2, tu en parlais Vincent, un dernier film de Clint Eastwood où le procès réveille des failles intimes. Ou encore à Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023, où Théis était déjà en prise avec la justice.
Je le jure, est en salle depuis le 26 mars. Nicole Kidman épouse modèle, enquête sur les infidélités de son mari. Nous parlons de Hollande.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Chaque jour, j'ai la chance de me réveiller dans la meilleure ville du monde. Hollande, Michigan.
Bonjour Madame Radergut.
Bonjour. Quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé.
Coucou, maman. Merci.
Une ville parfaite. On pourrait croire qu'on a tout pour être heureux. Mais en réalité, c'est comme si on étouffait.
Et oui, il y a comme un blême. Il y a peu, j'ai vu le film Amsterdam. Alors, j'en parle parce que le film ici s'appelle Hollande, hein, avec Christian Bale. Un gros regret quand même, ce film. Le lien avec la ville des Pays-Bas n'était pas si évident, mis à part qu'une partie des personnages s'y sont retrouvés. Et voyant qu'un film Netflix avec Nicole Kidman et Gaël Garcia Bernal s'appelait Hollande, alors là, j'ai été intrigué. Y aura-t-il un vrai rapport avec les Pays-Bas? Eh bien, oui, car l'intrigue du film se passe dans une ville du Michigan qui s'appelle donc Hollande et qui a été bâtie par des néerlando-américains. Alors, dès le début du film, c'est la fête de la tulipe, hein, avec les tenues traditionnelles. Et Nicole Kidman, dans cette tenue, fait très hollandaise finalement. Le rôle de cette ville s'imbrique dans les méandres de ce scénario qui cherche un bon moment à nous égarer.
Moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dois aller voir Alcon juste pour une nuit.
Oh.
Tout va bien à la maison?
Chérie, on est rentrés.
Ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu te sentes en sécurité.
Croyant son mari infidèle, une mère de famille décide donc de mener l'enquête avec son jeune collègue incarné par Gaël Garcia Bernal. Découvrant que son mari est probablement un menteur, donc, elle décide aussi de faire la même chose de son côté, jusqu'au jour où elle se rend compte que son époux ne cache pas une liaison, mais un méfait bien plus lourd. Alors, je ne ferai pas comme les distributeurs révéler de quoi est coupable ce mari, hein, qui semble un homme bon sous tout rapport, car il faut tout de même considérer que Hollande est un film qui se nourrit du suspense à partir du moment où le spectateur n'en sait pas davantage que les personnages qui mènent l'enquête, tout au plus. plus peut-il être intrigué par quelques postures et quelques situations. La réalisatrice insiste donc sur cette femme qui semble-t-il est vouée à sa famille, remerciant son mari de l'avoir arrachée à sa petite ville où elle n'avait nul avenir. Mais quand tout se craquelle, la voilà qui estime qu'elle a mieux à vivre que les tulipes, la tradition, le bon mari, ce n'est peut-être pas ça la vie. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Ma vie ressemble au monoxyde de carbone, elle est tellement tranquille et confortable que je ne me rends pas compte que je suffoque. »
Parfois, dans la vie, il faut suivre la trace des indices, peu importe où ça nous met.
Nancy, ton monde va s'écrouler.
Les actions ont des conséquences. Bon. C'est comme quand on a une croûte, on sait qu'on ne doit pas y toucher. Mais on le fait quand même.
Alors ce film qui aurait pu tourner au marivaudage ou au drame conjugal épouse davantage eh bien, petit à petit la forme du thriller avec quelques surprises. Tous les personnages évoluent, ça c'est peut-être la qualité, alors peut-être même la seule qualité du film. De la mère de famille qui devient aventureuse, aux collègues de travail qui se montrent outrageusement virils jusqu'au mari qui dévoile une nature terrifiante. La réalisatrice soigne sa mise en scène, notamment les passages entre les séquences. Alors ça c'était très étonnant, alors ça finit même par être trop voyant, bon, ce qui est peut-être un petit défaut. Toutefois, ce film, mis à part nous faire voir deux acteurs exquis, eh bien, ne tient pas toutes ses promesses en ne déjouant pas finalement encore suffisamment la normalité qu'il expose au préalable. En tout cas, Hollande est à voir sur la plateforme Netflix. Le tableau d'une humanité qui tente tant bien que mal de rester debout face aux épreuves. Nous parlons de Deux Sœurs, dernier film de Mike Lee.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Oui, on est comme on est.
Souvenez-vous, hein, enfin pour les plus âgés, hein, Mike Lee, après deux films solaires, hein, des comédies dans une veine très anglaise, hein, Ike Hobbs et Life is Sweet, changeait de registre avec Naked. Alors ce film méchant et grinçant, hein, ce qu'on appelle parfois un film pas aimable, hein, était une errance blafarde d'un type affreux sur fond de brutalité des rapports humains. Ce rôle avait valu à David Zoëlis hein, le prix d'interprétation à Cannes en 1993. Plus de 30 ans plus tard, hein, Mike Lee revient dans cette veine avec Deux Sœurs, mais son regard a changé. Il ne s'agit plus d'ausculter une société capitaliste à travers le prisme d'un SDF, mais d'essayer de déceler la part d'humanité qui se cache derrière un personnage apparemment monstrueux, Pansy. Alors dès l'ouverture, elle se fâche, hurle et s'en prend à la terre entière pour tout et n'importe quoi. Ses cibles de prédilection, son mari Kurt Lex, qui laisse faire, et puis son fils, leur fils, Moses, replié sur lui-même et semblant vivre dans un univers parallèle. Alors comme tous les grands râleurs qui éructent, hein, Pansy porte en elle une charge comique, un côté bulldozer hein, qui provoque autant le rire que l'exaspération. Sa sœur, Chantelle, en est exactement l'opposé, joyeuse et positive dans son salon de coiffure. Elle n'est que bienveillance avec ses clientes et entretient une relation complice avec ses deux filles épanouies. Alors le contraste est si fort que l'on se demande ce qui a bien pu arriver à Pansy, alors que ce soit dans son enfance, dans sa relation avec ses parents ou même avec son mari, à moins que le changement de personnalité soit récent, bah, lié au Covid qui plane quand même sur le film sans être directement nommé.
C'est un petit extrait de la bande originale du film.
Oui, j'ai reconnu. Alors, à toutes ces questions et hypothèses, Mike Lee, très pudique, ne répondra pas. Il ne prend pas en charge le psychodrame familial avec des révélations fracassantes et des traumas d'enfance. Non, il laisse le spectateur faire le travail en observant les fêlures d'une femme perdue, cumulant les symptômes de la dépression chronique. La scène de réunion de famille, hein, lors de la fête des mères, résume les intentions du cinéaste et son questionnement. Comment deux personnes élevées dans le même environnement peuvent-elles être si différentes et avoir construit des vies si opposées ? Alors, pour étayer ce propos, hein, Mike Lee va à l'essentiel, se focalise sur une poignée de personnages, vidant l'environnement de ses figurants. Sa mise en scène élégante et précise a un côté clinique qui rappelle le récent travail de Michel Franco, notamment dans Memory. Alors, Mike Lee opte pour de longs plans larges, hein, parfois bousculés par des plans rapprochés sur les visages, notamment hein, impliquant le spectateur dans la souffrance des personnages. Cette distanciation n'empêche pas l'émotion de surgir par instant, sans crier gare, au détour d'un plan, d'un regard perdu de Pansy, qui n'est rien d'autre qu'une femme malade. Elle est interprétée par une actrice géniale, Marianne Jean-Baptiste, aperçue récemment dans l'excellent Une fabrique de Peter Strickland, mais surtout, 30 ans auparavant, dans un autre film du cinéaste, Secret et mensonge, qui avait remporté donc la Palme d'Or à Cannes en 1996. Voilà, dommage que dans sa dernière demi-heure, Mikey force un petit peu trop le trait, il est un peu trop démonstratif sur la dernière ligne droite, ce qui arrive souvent à ce type de film. Mais en l'état, quand même, Deux Sœurs est vraiment un beau film, à la fois dur et sensible, qui confirme la forme d'un cinéaste qui est âgé de 85 ans, il me semble, à peu près. Il est né au début des années 40.
Ouais, et puis c'est quelqu'un qui n'a fait quasiment que des bons films. Et je me demande comment on n'a pas fait de blind test autour de Mike Lee depuis que Cinérama existe. Nous réparons cette erreur aujourd'hui. Blind test, donc spécial Mike Lee, 5 extraits de cette filmographie qui en compte 50 films. Alors, on ne les connaît pas tous, mais je pense qu'on en connaît au moins une bonne dizaine parce que c'est quand même quelqu'un qui a remporté des prix à Cannes et puis aussi à Venise. Voici le premier extrait.
Et une purée de pommes de terre, ça te dit ?
Oh non, pas de purée, c'est dégueu.
Des frites ?
J'en veux bien un peu.
C'est combien un peu ?
Un peu, quoi ?
2 ?
Très drôle.
3 ?
La ferme.
Tu vas sortir ce soir ?
Ouais.
Ah bon, où tu vas ?
Ailleurs.
Ah, c'est pas mal ailleurs.
Tu connais ?
Ouais, c'est un peu bondé souvent, non ?
Ouais, t'as raison.
Et tu sors avec qui ? Scarface ?
Arrête ! T'as pas le droit de te foutre de lui !
Tu la veux, cette housse de couette pour ton lit ?
Non. Et pourquoi tu la repasses d'abord ? Personne repasse les housses de couette.
Moi si, du moment qu'on me paye, je donne un coup de fer, je vois pas pourquoi je refuserais. Bon, je vais te faire tes frites. 2, c'est ça ?
Voilà. Donc.
Vera Drake ?
Non. Non, pas du tout. C'est moins enjoué, Vera Drake. c'est l'histoire de Phil, un chauffeur de taxi de Penny, une caissière dans un supermarché. Alors, ces deux-là voient leur vie de couple et de famille se désagréger, mais un événement va transformer leur vie et leur faire à nouveau découvrir l'amour. C'est un film de 2002, All or Nothing. Et pourquoi tu ne l'aurais pas vu ? Eh bien, il y a une explication, 82 500 entrées en France. Voilà, il fallait que tu fasses partie de ceux-là ou pas.
Je crois que je l'ai en DVD en plus,
ce film, mais je
ne l'ai toujours pas vu.
Eh oui. Allez, il faudra se rattraper. Deuxième extrait.
Aussi saisissant la deuxième fois, peut-être même davantage. N'est-ce pas, père ?
Sans nul doute. Je me souviens qu'il a suscité bien des discussions enflammées et exaltantes longtemps après l'exposition.
Il ne s'est pas vendu.
Vraiment ?
Non, monsieur Ruskin.
Je suis très étonné.
Comment un chef-d'œuvre pareil ?
Tacquerel a vilipendé.
Mais encore ?
Sublime ou ridicule, selon lui.
Eh bien, peut-être devrait-il prendre parti.
Il a le verbe cynique et mordant.
Il n'est point de place pour le cynisme dans la critique d'œuvres d'art.
Cela n'a aucune importance.
Aucune.
Le tableau est toujours en vente.
Alors, il y avait des gros indices.
Oui, bon, sur un peintre, donc c'est Mr. Turner.
Oui, film de 2014 avec Timothy Spall. À noter que les extraits que je donne sont des films que j'ai trouvés en version française, car c'est très dur de trouver des films de Mike Lee en VF. Et elles ne sont pas toujours très heureuses, d'ailleurs, ces versions françaises. C'est comme chez Ken Loach, il y a vraiment un vrai travail des accents. Souvent, il nous place dans des familles très populaires. Enfin, voilà, il y a quelque chose de vraiment très important et il est soucieux du détail.
Et puis on n'est pas dans une production hollywoodienne, donc dans le cinéma d'auteur, c'est toujours très problématique d'avoir des versions françaises. On y croit beaucoup moins en fait.
Oui. Donc, Mr. Turner, ce sont les dernières années de l'existence du peintre britannique J.M.W. Turner. Sa vie change quand il rencontre Mrs. Booth, propriétaire d'une pension de famille en bord de mer. 316 000 entrées en France quand même pour ce film. Troisième extrait concernant donc la filmographie du grand Mike Lee.
J'ai mal à la tête. Dites-moi pourquoi j'ai mal à la tête.
C'est peut-être vos hormones. Donnez-moi.
Cogiter. Des pieds à la tête, de bas en haut. Vos bottes, papy. Vos bottes.
Bien sûr,
les semaines, je vous demande de mettre des semelles plates pour conduire.
Oui.
Et toutes les semaines, vous résistez et vous revenez avec les mêmes pompes.
Oui, excusez.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la vanité passe avant la sécurité.
Ah, voilà.
La vraie Madame Jones, toutes mes excuses. Papy a tué votre enfant, mais tant pis. L'important, c'est elle. Et elle est sexy dans ses bottes.
Je perturbe vos nuits, Scott.
Non.
C'est vrai, ce mensonge. Alors, on continue la leçon ?
Vous allez renoncer à mettre ces bottes ?
Non, je crois qu'elles feront l'affaire. Je suis bien dedans. Il y a plein de femmes qui conduisent en talons hauts.
Très bien. Vous serez responsable.
D'accord, Hector, j'assumerai.
Alors, il faut peut-être avoir vu le film, mais bon, là, c'est une leçon de conduite, en fait, et c'est très répétitif dans le film.
Il est de quelle année, le film ?
Il est de 2008.
Alors, c'est pas Another...
Non,
non c'est pas non. Celui-là.
Et là, pour le coup, c'est une comédie. Hein. C'est vraiment une comédie.
Ah, c'est pas Be oui, Happy ?
Si, voilà, Be Happy, et en anglais, c'était Happy Go Lucky. Avec Sally Hawkins, donc là, c'est un cours de conduite, mais il y a aussi son boulot d'institutrice, le cours de flamenco et de trampoline. Tout va plutôt bien dans la vie de la positive Poppy, surtout quand elle rencontre Tim dans le cadre de son travail. 362 000 entrées en France pour ce film de Mike Lee. Quatrième extrait de ce blind test.
Tu peux en faire un vendredi ?
À 5 heures ?
Oui.
C'est d'accord.
Une femme mariée ?
Ah oui.
Elle a de quoi se faire du mouron.
Pourquoi ça ?
Elle a pas trouvé mieux que d'aller voir ailleurs.
Oh, ça, ça se fait pas, Lily.
Je suis d'accord avec toi.
Eh oui, il faut pourtant les aider.
Ça a été avec la négresse.
Oh là là, ce qu'elle m'a fait mal au cœur.
Et puis elle est loin de son pays.
Et elle était terrorisée.
Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, il faut dire ?
Ils espèrent avoir une vie meilleure et s'en sortir.
Qu'ils restent chez eux.
Ils sont travailleurs.
Il te faut du sucre ?
Comment as-tu le fait cette semaine ?
15 penny et demi pour toi.
Bon, d'accord.
Donc là, on l'entend, il y a un personnage qui est plutôt porté vers l'aide, l'entraide et l'humanité, puis l'autre qui est un peu revêche. Qu'est-ce qu'il y a comme autre indice ? Elle fait quelque chose qui est totalement interdit, elle le fait avec bonté, c'est Vera Drake. Voilà, film de 2004 qui a remporté le premier prix à la Mostra de Venise. Vera Drake est une mère de famille donc exemplaire et totalement dévouée à son entourage. Elle cache à tout le monde une activité secrète. Elle aide certaines femmes à mettre fin à leur grossesse involontaire. 190 000 entrées en France seulement pour ce film qui a pourtant remporté un grand prix. Allez, dernier extrait de ce blind test consacré à Mike Lee.
Que peut signifier d'après toi une prophétie aussi précise ? Qu'est-ce que c'est que cette marque ? Eh bien, cette marque, Brian, c'est le code-barre. Tu sais, le code-barre qu'on voit partout, qu'on trouve sur tous les rouleaux de PQ, toutes les boîtes de capote et tous les pâtés de porc de merde. Et chaque putain de code-barre est toujours divisé en deux par trois barres, t'as remarqué ? Et chacune de ces barres est toujours représentée par le chiffre 6. 6, 6, 6. Tu te souviens de ce qui est dit ? Nul n'aura plus la possibilité d'acheter ou de vendre sans cette marque. Et maintenant, ce qu'ils envisagent de faire afin de supprimer toute fraude sur les cartes de crédit et afin de mettre en place une société sans argent liquide, ce qu'ils envisagent de faire, qu'ils ont déjà d'ailleurs testé sur des soldats américains, c'est de graver au laser une marque sous-cutanée sur ta main droite ou sur ton front. Un jour, ils remplaceront la chair par du plastique. Véridique! Et si on poursuit, dans le livre de la Révélation, quand les sept sceaux sont ouverts au jour du jugement dernier, quand les sept anges sonnent leur trompette, lorsque le troisième ange sonne, on voit l'absinthe tomber du ciel et l'absinthe empoisonne un tiers de toutes les eaux et un tiers de toutes les terres et plein de gens périssent. Bon, et est-ce que tu sais comment on dit absinthe en russe ?
Non.
Tchernobyl ? Véridique ! Et le 18 août 1999, les planètes de notre système solaire vont s'aligner de façon à former une croix.
Pas du tout à l'astrologie.
Oh, mais il s'agit pas d'astrologie. Moi, je te parle d'astronomie. Elles s'aligneront pour être dans les signes fixes du Verseau, du Lion, du Taureau et du Scorpion. Bon, mais ça, justement, ça correspond aux quatre bêtes de l'Apocalypse, comme on le dit dans le livre de Daniel. Ça encore, c'est véridique. Merde ! Tu veux que je continue ? La fin du monde arrive à grands pas. C'est irrévocable.
Alors...
Naked ?
Oui. En pleine dérive, Johnny quitte Manchester pour Londres, rejoindre son ex-petite amie Louise, pas forcément ravie de son retour. Vaguement SDF, Johnny, pas toujours bienveillant, va faire la rencontre de multiples personnages et il a son pendant à l'autre bout de l'échelle sociale, un type glaçant qui se montre bien plus abject. Nous voilà plongés dans une atmosphère post-Thatcher où les rapports humains ont fichu le camp. Film absolument formidable, film de 1993. À Cannes, il a remporté le prix de la mise en scène et prix d'interprétation masculine pour David Thewlis, qui est remarquable. Bon, la suite de sa filmographie l'est moins. Et malgré tous ces prix et malgré le fait que ce film soit totalement exceptionnel, seulement 178 000 entrées en France. Voilà, pour Naked. Nous parlions de Mike Lee, de sa filmographie, puisque Deux Sœurs est en salle depuis le 2 avril. Nous terminons l'émission avec un film polonais, Wet Monday.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Alors, Wet Monday, en polonais, Leni Poniedziałek, Dialek, voilà. Est l'équivalent de notre Mardi Gras, sauf qu'en Pologne, cette fête religieuse est largement suivie par l'ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés. Alors plus surprenant encore sont les adolescents et adolescentes, hein, jouent le jeu à fond, s'investissant en fait dans cet événement carnavalesque sur fond de folklore et de magie. Alors dans ce contexte, Clara, à 15 ans, 7 jours avant cette manifestation locale, est prise d'une soudaine phobie de l'eau liée à un traumatisme qui ressurgit par bribes. Alors elle peut compter sur le soutien de sa sœur, qui connaît son secret, et de sa nouvelle amie Diana. Alors, dans une atmosphère onirique, sur fond de sororité et d'empathie, Justina Mitnick réussit un étonnant portrait de groupe qui parvient à faire cohabiter le fantastique, le teen movie et le drame intime. La problématique centrale, un viol dont le coupable était masqué, est rapidement dévoilée. On est au courant au bout de 5 minutes. La réalisatrice s'intéresse davantage au cheminement intérieur de la victime qui reconstruit les faits par une succession de rêves et de souvenirs plutôt qu'à la révélation de l'identité du coupable. Alors, comment faire face à un traumatisme qui affecte autant l'esprit que le corps et qui passe par une série de signes et de symboles comme l'eau et le tunnel que Clara doit traverser? Les séquences de rêve agissent comme une forme de reconstruction, un puzzle mental qui n'est pas sans rappeler le cinéma d'un certain Nicolas Roeg. Fascinée par les rituels et les traditions religieuses, Justina Mitnick raconte une histoire d'émancipation féminine sans jamais verser dans le pathos ou le sensationnalisme. Tout est suggéré par une mise en scène sensible et élégante grâce à une utilisation brillante de la Steadicam qui nous plonge dans un climat étrange entre naturalisme et surnaturel. Alors, il ne s'agit pas d'un plaidoyer à charge sur la toxicité masculine. D'ailleurs, les personnages masculins sont quasiment tous hors champ, qui avanceraient donc masqués au sens le plus littéral, mais d'une œuvre profondément sensible et sincère qui tente de montrer comment survivre à un choc émotionnel et physique. Alors, rien n'est définitif, il est possible de dépasser le drame et de retrouver un élan de confiance et de beauté dans l'humanité. Alors, c'est ce que semble énoncer l'épilogue, très beau, peut-être un peu trop beau, où les jeunes filles dansent autour d'un feu, retrouvant l'espace d'un moment, le sourire et la joie de vivre. Alors, un très joli film porté par de jeunes actrices débutantes, toutes remarquables. Et puis, si le sujet, maintes fois traité ces dernières années, peut nous paraître un peu conventionnel, il n'en est pas de même en Pologne, où la réalisatrice a quand même mis près de 7 ans à monter son projet, se heurtant en fait à l'industrie cinématographique de son pays, qui n'acceptait pas vraiment ce type de film. En France, c'est peut-être facile de le faire, mais je pense que là-bas, c'est compliqué.
C'est moins facile en Pologne, je pense aussi. Wet Monday est en salle depuis le 2 avril. Emmanuel, tu voulais aussi parler du dernier film d'Albert Serra.
Oui, un documentaire de 2 heures sur la tauromachie, surtout sur un toréador. Alors, il dépasse le débat, on va dire, pro ou anti-corrida, même si le regard du réalisateur n'élude pas la souffrance animale. Et je trouve que son regard est assez clair. Voilà. C'est un magnifique documentaire qui parvient à fictionnaliser, je dirais, sa matière à travers le portrait fascinant d'un toréador qu'il ne déifie jamais. Il rejoint toute la galerie de personnages du cinéaste, de Louis XVI, la mort de Louis XVI, ou du personnage de fonctionnaire dans Pacifiction. Et puis, c'est aussi un film sur le machisme, la masculinité vraiment toxique, où il montre aussi que les toréadors n'ont aucun respect envers les animaux. Donc, je suis assez surpris que certaines personnes en parlent comme d'un film de propagande pour la tauromachie, alors que le film est très éprouvant. Et puis, moi, je le trouve vraiment splendide. Et surtout, on se demande comment il a pu filmer d'aussi près dans les arènes, des scènes qui sont quand même difficiles à voir. Et en éludant complètement aussi le public. Ça n'existe pas. C'est juste concentré sur le taureau et le toréador.
Ce documentaire d'Albert Serra est en salle déjà depuis le 26 mars.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas, le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se quitte avec la bande originale de Naked. Pourquoi ? Parce que cette bande originale a été utilisée pour le premier générique de l'émission Cinérama il y a fort longtemps. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve avec un film.
J'aurai la jeune fille à l'aiguille.
Et puis, nous aurons d'autres films et peut-être un blind test. À la semaine prochaine.
is Cinerama. Cinerama. Cinerama.